Vous savez, les chimpanzés ont un sens de l'humour. Et s'il y a une blague qui les fait se marrer, c'est l'homme descendu sage.
Matryoshka.
Eh oui, hein, ils se gossent, hein, les chimpanzés, ils se gossent quand on dit que l'homme descend du sage. Oui, mais sauf que l'homme vient d'où alors? Et puis est-ce qu'il descend vraiment de quelque part? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Matryoshka. On ne pouvait pas continuer de fleurir notre collection Matryoshka autour de la transmission sans revenir aux fondamentaux. Et c'est ce que nous engageons maintenant avec Pascal Pic, le paléo-anthropologue, rabat les cartes de toutes les images qu'on s'est faites jusque-là, celles qu'on a trouvées dans nos manuels d'histoire, toutes ces histoires qu'on a bu comme du petit lait et qui sont fausses. Je ne descends pas du singe, pas plus que je ne descends de Dieu. Mais alors, comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi les femmes sont absentes de nos livres d'histoire? Sont-elles vraiment absentes en soi de la préhistoire? Et puis, cette image-là de l'évolution, elle est vraie au moins? Ou là encore, c'est une affaire de malentendu? Bon, clairement, il est temps de remettre nos pendules à l'heure. C'est parti.
Ah ben attendez, l'histoire du corps qui se redresse... Non, ça, ça n'a jamais existé, bien évidemment.
La verticalisation.
Ça vient tout droit des arbres.
Et ça, que la verticalisation, on la raconte par rapport à quelque chose qui serait sacré.
C'est complètement faux. Donc c'est une vision donc très très ontologique, très 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 orientée vers la domination de l'homme sur la nature. C'est l'héritage des Grecs, d'Aristote. C'est l'échelle naturelle des espèces, la scala naturae, ce qui montre que l'homme s'élève de la terre et l'esprit, la tête se met au-dessus du corps, au plus près des cieux. Et ce qui est vulgaire, c'est la terre et c'est les pieds. Donc ce qui va aussi être pris à la Renaissance jusqu'à aujourd'hui.
Quand vous me dites ça s'est pas passé comme ça, qu'est-ce qui s'est pas passé comme ça?
Il se trouve qu'il y a 13 millions d'années, une lignée de singes ou de grands singes en Afrique a acquis des tailles corporelles plus grandes. Et surtout, c'est arboricole, ils vivent dans les arbres. Et quand on est plus gros, se déplacer dans les arbres, c'est moins évident. Donc, ils ont quatre mains. Hein, leurs pieds sont comme les mains. Mm-hmm. Et donc, ils s'accrochent aux branches. Donc, quand ils se déplacent, ils s'adressent, ce qu'on appelle la bipédie assistée. Ils accrochent avec leurs pieds-mains la branche du dessous, ils s'accrochent à celle du dessus. Et ils apprennent à voir le monde verticalement. Ils acquièrent un très gros cervelet, qui en fait, on a autant de neurones dans le cervelet que le reste du cerveau, ça c'est très peu connu, pour gérer des relations dans un espace à trois dimensions. Et quand vous passez au-dessus de 30-40 kg, je vais vous dire que vous êtes un singe d'un kilogramme, vous loupez une branche, il y en a d'autres pour vous rattraper. Vous faites 40 kg, il n'y a aucune branche qui vous rattrape, vous êtes mort. Et donc à partir de là, ça va changer les rapports à l'espace. C'est là que vont émerger des relations sociales aussi extrêmement complexes. Donc tout ça va en même temps, hein, c'est la coévolution. Il n'y a pas un seul facteur, tout ça va en même temps. Et en l'occurrence, donc, les bipédies, enfin les aptitudes, pas la nôtre, hein, parce que la nôtre est absolument extraordinaire, elle arrive vers 2 millions d'années, mais en tout cas, il y a eu une floraison de bipédies qui remonte à plus de 10 millions d'années. Et en définitive, même Darwin pensait comme ça. Mais il se trouve que cette image, vous savez comment elle s'est imposée?
Non, justement.
Time Life, qui avait sorti dans les années 50, une très belle série.
Dans les années 50.
Où on voit ce redressement du corps. Et comme ça recoupait l'image de l'échelle des espèces d'Aristote, tout ça a convergé et a forgé cette espèce d'icône, il n'y a pas d'autre mot, qui est très difficile à balayer parce qu'elle semble tellement logique et pseudologique et donner beaucoup de sens, mais elle est complètement fausse d'un point de vue des mécanismes de l'évolution.
Tout le monde parle de Darwin sans trop savoir ce que ça veut dire. La théorie de l'évolution, d'accord? Aujourd'hui, ça veut dire quoi être darwinien?
Il se pose cette question, comme tous les naturalistes de son époque. Pourquoi les sont tous différents les uns des autres? Pourquoi certains de nos caractères se transmettent et d'autres pas? Donc c'est une théorie des diversités. Et en fait, on est en train de découvrir que les diversités sont l'enjeu essentiel de l'avenir des espèces et de nos sociétés et des écosystèmes. Maintenant, vous avez tout le temps de la diversité. Des hommes, des femmes de tous les âges, des handicapés, etc.
C'est une société inclusive qui se dessine.
C'est une société inclusive qui est en train de se mettre en place. Il y a encore beaucoup de résistance, je ne suis pas naïf. Mais ça, oui, c'est nouveau.
Ça, c'est darwinien? C'est ça ma question.
C'est darwinien.
Ou est-ce que c'est une tendance, une mode?
Non.
On est inclusif, on est flexitarien.
Darwin nous dit que toute différence est une potentialité pour l'adaptation. Si vous avez compris que toute différence est une potentialité pour l'adaptation, vous comprenez que discriminer, ça vous fout dans la merde. Donc, il n'y a pas d'autre mot.
Alors, j'entends votre signal. En même temps, il y en a un autre qui pourrait paraître complètement contraire dans toutes ces manifestations. Avec la mondialisation, on a poussé aussi à une forme d'uniformisation.
Et non !
Alors, pourquoi ?
Alors ça, c'est génial. Parfait exemple, Netflix.
Allez-y.
Netflix. C'est comme, c'est
allez-y sans vous fâcher.
Non, je ne suis pas en train de me fâcher. Non, mais je trouve que c'est magnifique. Parce qu'effectivement, on a tous craint ça, nous autres aussi, les anthropologues. On s'est dit, attends, tout le monde communique, c'est le globish, hein, donc l'anglais parlé au niveau international, comme vous savez. Et on s'est dit, tout le monde parle anglais. Et au contraire, vous avez aujourd'hui des séries absolument remarquables qui émergent partout dans le monde. Et c'est ça qui est absolument génial en ce moment. C'est que nous sommes tous connectés, alors malheureusement pour les virus, mais aussi par les réseaux numériques, et qu'en l'occurrence, pour la première fois depuis 500 ans, depuis que l'Occident dominait le monde, mais maintenant nous faisons partie du reste du monde, nous sortons de la vision verticale du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vont émerger, et c'est déjà le cas, de nouvelles expériences qui peuvent nous agréer ou pas, mais partout dans le monde.
Et donc ça, c'est être darwinien aujourd'hui?
C'est parfaitement darwinien, c'est-à-dire qu'effectivement, vive la diversité.
Par rapport aux femmes,
ah.
Pourquoi, selon vous, les femmes ont été si absentes de toutes nos narrations?
Bah, d'abord, il y a quand même une idéologie misogyne qui est quand même extrêmement tenace, notamment dans notre culture. C'est une aberration totale. Ne serait-ce que dans la société d'aujourd'hui, la discrimination envers les femmes, ça a des coûts économiques absolument extravagants. C'est-à-dire, on parle de millions de dollars, de millions de milliards de dollars. Donc, c'est assez lamentable d'être obligé de chiffrer économiquement le coût de la discrimination pour en arriver à une prise de conscience, mais normalement, les conséquences sont là. L'histoire, telle qu'elle a été écrite il y a encore jusqu'à 20 ans, c'était écrit selon les canons de l'Occident, avec des sociétés patriarcales extrêmement puissantes, qui avaient complètement idéologisé la misogynie, et donc l'exclusion des femmes du monde économique et social, et politique, bien évidemment. Et derrière cela, ce que l'on sait, même dans une société dite plus matriarcale, c'est que les relations extérieures, ce sont les hommes qui s'en chargent.
Qu'est-ce que votre discipline éclaire sur ce sujet?
On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut reprendre toute l'archéologie, parce qu'en fait, toute la vision patriarcale, machiste, qui a prédominé en Occident, et qui s'accentue à partir du 19e siècle, au moment où arrivent mes disciplines et les autres, bien évidemment, eh bien, en fait, a réaccentué les choses. Le schéma s'est auto-construit lui-même. Mm-hmm. Dès qu'on voyait une tombe, enfin une tombe, ça c'est plus récent, c'est la proto-histoire, l'âge des métaux, donc nous sommes à l'orée de l'histoire, dès qu'on voyait un squelette avec des armes, c'est un homme. S'il y avait des bijoux, c'est une femme. Parce que c'est un gros gag d'ailleurs dans ma discipline, la dame rouge de Pavilande, c'est joli, hein, Sopé de Galles. Dans les années 1820-1830, on trouve
c'est
un squelette.
C'est qui ce mec alors?
Et justement, ce mec, c'était un mec, c'était pas une femme. Parce qu'on le trouve dans une grotte, au Pays de Galles, et le corps est couvert d'ocre rouge. Donc on s'est dit, on l'avait dit, c'était une prostituée romaine, oui, carrément. Il y avait des bijoux là. Et on s'est aperçu, avec les études modernes, que c'était en fait un homme. Et aujourd'hui, on commence à regarder à nouveau ces sépultures ou autres, et on s'aperçoit que non, il y a des sociétés. Alors, c'était pas une bonne nouvelle que des femmes étaient guerrières, mais en tout cas, il y en avait. Et en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup plus de sociétés complètement différentes. Donc vous voyez, on a deux choses en même temps qui arrivent. C'est qu'une prise de conscience très récente, évidemment, des discriminations, des violences faites aux femmes, complètement hallucinant, eh bien, il va falloir repenser également, regarder à nouveau quelles ont été l'histoire et l'évolution des autres sociétés, par exemple des sociétés matriarcales qui existent aujourd'hui, qui ont été certainement beaucoup plus importantes qu'on l'a imaginé et qui existent encore et qu'on néglige complètement.
Ce qu'on entend au travers de ce que nous dit le paléoanthropologue, c'est que c'est finalement la diversité qui nous fait évoluer. Et les femmes peuvent peut-être y jouer un petit rôle, enfin en tous les cas, parce qu'elles piquent les tailles en 450 pages ici, si nécessaire. Donc fini cette vision verticale. L'homme descend du singe, monte vers le sacré, l'homme domine la femme, domine son environnement, domine les animaux, l'Occident domine le monde, fini tout ça. Aujourd'hui, on est en plein éveil des consciences, et ça confirme bien qu'on est en pleine évolution. Et si jusqu'à présent, ce sont les conquérants, les vainqueurs, bref, toujours ces mêmes dominants qui ont écrit l'histoire, eh bien Pascal Pic nous aide à la lire autrement. Car parfois, ce sont en réalité ces petits riens, ces petites choses anecdotiques, ces incidents, ces contingences qui nous dépassent, ce sont eux qui flèchent l'évolution. Explication.
L'évolution, ça veut dire que vous avez énormément de facteurs qui interviennent. Il n'y a pas que les facteurs humains. Il y a toujours ce qu'on appelle des contingences. Quoi? Ça veut dire que vous avez des événements qui apparaissent sans nécessité ou sans répondre à un besoin ou de la société ou de l'environnement.
Insensé.
C'est la première
action. C'est l'incident.
Voilà, c'est, comme on lit, c'est contingent. Oui, bah, les mains. c'est contingent. Mais maintenant, il y a un autre aspect de la contingence, c'est que, effectivement, si ces facteurs qui ont émergé ne sont pas sélectionnés, ça ne change rien.
Mais ça veut dire quoi, s'ils sont
pas sélectionnés, ça peut changer le monde. En fait, tout l'humanisme depuis 5 siècles en Occident a été une volonté de lutter contre la contingence. Avoir la maîtrise de l'avenir de l'humanité. Et donc on avait cru qu'on avait...
Avoir la main sur l'histoire.
La main sur l'histoire, la main sur l'avenir de l'humanité. Et la nature est la grande adversaire dans cette affaire-là, à cause de sa contingence. Et en l'occurrence...
Ça nous affaiblissait dans notre domination.
Dans notre domination, ou surtout notre inquiétude par rapport à un avenir dont nous n'avons pas la maîtrise et qui peut présenter donc des incertitudes. Ça se voit à la caméra, je suis un baby-boomer. J'appartiens quand même à la première génération qui n'a connu ni guerre, ni catastrophe naturelle, ni épidémie majeure. Jusqu'à il y a très peu de temps. Et c'est là qu'arrive la crise de la Covid-19, qui n'a en fait qu'accéléré...
C'est quoi, du coup, une contingence ?
C'est une contingence, absolument. Ce coronavirus aurait très bien pu n'avoir qu'une faible incidence locale, et puis c'est terminé. Mais il s'est trouvé que ce coronavirus, il est quand même très viral, c'est moins qu'on puisse dire. Il a des manières d'agir sur notre organisme qu'on ne connaissait pas du tout, parce qu'on n'a jamais évolué avec, on n'a jamais coévolué, c'est le vrai terme. Par exemple, nous coévoluons avec la grippe, voyez-vous, mais on n'a jamais coévolué avec les coronavirus. Et de ce fait, il a bénéficié d'une niche écologique absolument incroyable, c'est-à-dire 8 milliards d'humains quasiment qui sont connectés et qui circulent dans le monde à la vitesse des avions à réaction.
Mais ça disait quoi à l'époque pour vous ? Les évolutionnistes, ils pouvaient se dire, ça racontait quoi
ça racontait qu'effectivement, que d'abord, la nature est toujours là. Et que, manifestement, regardez, tout de même, on parlait beaucoup des transhumanistes, on avait l'idée, vous savez, c'était le grand débat, la mort de la mort, hein, vous vous souvenez, c'était un grand succès. On avait les vaincre la maladie, la mort est une aberration de l'évolution, etc. Et que, manifestement, ça y est, on était sortis d'affaires, l'unité mondiale, tout le monde avait le modèle économique et social, la démocratie partout, tiens, ouais. Et puis, bien évidemment, que nous allions nous abstraire définitivement, grâce au savoir, aux technologies, on n'a jamais autant de savoir, jamais autant de pouvoir technologique, c'était terminé.
Ben, voilà. Ça, c'est quoi ? C'est croire au progrès, quoi.
Là, c'est la vision.
C'est oublier c'est la vision l'envers du décor du progrès.
C'est la vision idéologique du progrès, tout à fait, c'est pas le progrès, c'est la vision idéologique du progrès, et qu'en l'occurrence, vous voyez, l'évolution, c'est pas long fleuve tranquille, c'est des périodes de relative stabilité, comme la Pax Romana, pardon, des périodes de changement progressif, et des périodes de changement très brutaux, ce qu'on appelle les ponctuations, ce qu'on appelle aussi des révolutions ou des crises, mais en gros, nous sommes en plein dedans, donc voilà, nous sommes en pleine évolution.
Ok, nous sommes en pleine évolution, c'est une très bonne nouvelle. Mais attention, l'évolution n'est pas toujours un long fleuve tranquille et parfois on navigue un peu à vue, alors forcément ça remue. Pour nous aider à garder le cap, Pascal Pic nous aide à nous repositionner à la fois dans le temps et dans l'espace. Il nous pousse à comprendre où on en est de notre évolution, comment on a changé et pourquoi on a changé si vite, mais aussi à comprendre comment notre environnement, qu'il soit culturel, technique ou écologique, a lui aussi évoluer sous notre influence et nous pousse à changer en retour. C'est ce qu'on appelle les différentes formes de co-évolution et c'est ça qui nous façonne en tout point.
Aujourd'hui, les questions liées à l'environnement, aux écosystèmes, les biodiversités, les changements climatiques mettent les humains au cœur de ces changements. Les mécanismes de l'évolution qu'ont connus nos ancêtres, même sans des millions d'années, sont toujours là. Mais en l'occurrence, ce qui est nouveau, c'est que nous n'avons jamais été aussi nombreux. L'humanité, malgré toute l'arrogance qu'elle a pu avoir jusqu'à ce début du XXIe siècle, eh bien aujourd'hui, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle est devenue un des acteurs principaux de l'évolution qui nous concerne en premier chef.
Et ça nous permet de voir quoi ?
Ça permet de réfléchir différemment par rapport à notre position dans l'histoire. Alors le mot est grand dans l'histoire du cosmos. Le système solaire existe depuis 4 milliards 500 millions d'années. Et le soleil va nous péter dans la figure dans 4,5 milliards d'années. Et quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, attendez. De réaliser que nous sommes un petit peu, j'allais dire de passage, ce n'est pas tout à fait le terme, mais qu'on a l'impression que, on parle de l'histoire qui remonte à 15 000 ans, on a l'impression que c'est énorme. On nous dit, nous que Sapiens, c'est quasiment 300 000 ans, waouh ! Et puis que la lignée humaine, c'est 2 millions d'années, waouh ! Donc vous voyez, tout ça semble énorme. Et en l'occurrence, ça pose la question de la responsabilité des générations futures. Donc c'était intéressant, parce que ce terme est quand même récent, et en l'occurrence, enfin ce concept. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est de se dire, ok, il n'y a pas de finalité. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. C'est que l'évolution n'a pas conscience de l'humanité. L'histoire de la vie n'avait pas conscience de l'humain ou pas. Donc ça, ça nous met extrêmement mal à l'aise. L'évolution nous a rattrapés dans son aspect le plus brutal avec le coronavirus, mais en l'occurrence, on s'aperçoit que toutes les problématiques qui ont émergé depuis une génération au sein de nos sociétés, à l'échelle mondiale d'ailleurs, sont fondamentalement des problématiques de l'évolution qui permettront, je l'espère en tout cas, c'est la contribution des personnes de ma discipline, d'avoir un regard plus, je veux dire, je dirais pas apaisé, mais en tout cas plus compréhensif de ce que c'est donc que notre rapport à la nature, aux générations futures, aux autres espèces.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que nos outils façonnent vraiment notre espèce?
Le grand terme aujourd'hui, c'est coévolution. Nous avons bien pris conscience que nous coévoluons. C'est-à-dire, pour toutes les espèces, il y a des interactions complexes, multiples, à travers notamment le régime alimentaire, à travers la relation avec les prédateurs ou les autres espèces, notamment avec les agents pathogènes, notamment les virus, qui passent d'une espèce à l'autre, c'est-à-dire que nous évoluons avec les autres espèces. Donc c'est le terme de coévolution qui est très important. La médecine actuelle, avec les idées de microbiote, vous savez, dont on parle beaucoup,
absolument,
nous sommes nous-mêmes des écosystèmes.
Habités de bactéries qui pourraient même nous manœuvrer.
Mais absolument. On parle même de deuxième cerveau, hein, comme absolument, vous le savez, depuis quand même pas mal de temps. Donc tout ça, c'est une réalité qui est quand même pas mal connue. Mais il y a autre chose. C'est que depuis que sont apparues les premières espèces humaines, notamment qu'on appelle les Homo erectus en Afrique, il y a ce qu'on appelle la deuxième coévolution. C'est que nous sommes des espèces qui sont très plastiques. Alors le terme est un peu à la mode, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous pouvons changer rapidement en termes de morphologie, qui est la taille et la forme du corps. Nous pouvons changer très rapidement en termes de physiologie, les fonctions du corps, nos fonctions vitales, notre espérance de vie, résistance aux maladies, etc. Et nous pouvons changer très vite cognitivement. Nous faisons partie d'espèces assez rares, chez lesquelles les femelles ou les femmes mettent un seul petit au monde, rarement deux. Mm-hmm. Longue gestation, sevrage tardif, enfance longue, adolescence plus ou moins longue, espérance de vie de 40 à 100 ans. Et là, ce sont des espèces qui, évidemment, ont une adaptabilité, c'est-à-dire la capacité de s'adapter au changement d'environnement ou le milieu dans lequel on est, qui, évidemment, joue sur ces plasticités morphologiques, physiologiques et cognitives. Et de ce fait, nos environnements techniques et culturels jouent sur nos plasticités et jouent un rôle considérable. Il y a 2 millions d'années, le feu. Alors évidemment, si vous regardez, vous tapez « qui a inventé le feu » sur un moteur de recherche, vous verrez toujours un mec. Bon, on n'en sait rien du tout, c'est peut-être même plutôt du côté des femmes que le feu a été inventé. Façon, mais néanmoins, nous sommes les premières espèces que la lignée humaine a changé la texture ou la structure des molécules, c'est-à-dire la chimie. Et le feu est une réaction chimique. Et ça va être la cuisson. Et la cuisson va permettre, plus que la viande, de détoxifier les nourritures végétales, les attendrir, etc. Et l'effet était extrêmement rapide, c'est-à-dire en quelques centaines de milliers d'années, à l'échelle de l'évolution bien sûr, la taille corporelle a augmenté de 20 à 30 cm, le cerveau va gagner un tiers de plus, et à partir de là, ça va avoir des conséquences écologiques, puisque de l'Afrique, les populations humaines, c'est pas nous encore à l'époque, hein, les Homo erectus, vont se répartir sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Regardez ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à mes grands-parents, arrière-grands-parents, peut-être ceux de tous ceux qui nous entourent, mais ils n'allaient pas travailler à 11 ans, 12 ans, 13 ans. C'est-à-dire que les cartilages de conjugaison donc du squelette n'étaient pas tassés par les efforts dans les mines, dans les champs, dans les usines. Donc, hop, on a gagné 15 cm de taille corporelle. En plus de ça, on a fait beaucoup de sport. C'est ma génération était folle de sport. Ensuite, les années 68, on était fous d'amour. Et donc, et évidemment, les progrès absolument incroyables de la médecine, de nos sociétés, les libertés pour les femmes, les libertés donc pour les mœurs, pour la démocratie, etc. C'était une évolution comme jamais. Et on a gagné 25 ans d'espérance de vie.
Donc on s'adapte, on coévolue, notre cerveau a grandi, nous aussi. Mais depuis que le numérique prend de l'espace, qu'il est censé nous augmenter, quelle est vraiment sa place? Est-ce qu'il nous grandit toujours? Et surtout, est-ce qu'il grandit tout le monde? Je vous propose un petit état des lieux maintenant de notre espèce dans son nouvel espace transformé depuis 2007. Vous allez comprendre.
Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas ce que va être encore cette autre coévolution avec nos espaces numériques.
On n'a jamais su en même temps ce qu'était la coévolution avant que ça ne se passe. Mais alors pourquoi c'est inquiétant?
On a changé le monde en 2007. Ça, on ne vous l'a pas dit. Pour trois raisons. Il y a un gars qui arrive sur scène avec ce qu'on appelle un iPhone, il s'appelle Steve Jobs, et il dit « I'm going to change the world ». Il sait ce qu'il est en train de proposer, mais il ne sait pas lui-même comment le monde va changer. Zuckerberg ne sait pas ce qui va arriver avec Facebook.
Ça m'intéresse de vous entendre. Expliquez-moi tout ça.
Quand il y a 12 ans ou 13 ans maintenant, M. Jack Dorsey et M. Sbonds, qui sont les deux cofondateurs avec d'autres copains et copines de Twitter, leur idée c'est quoi? C'est de créer un réseau social. On envoie des petites informations à l'époque en 140 caractères, comme vous vous souvenez. Et à partir de là, ça veut dire quoi? C'est qu'avec très peu de moyens, un groupe d'hommes et de femmes peut créer une application qui, si elle n'est pas sélectionnée, ça ne change rien au monde. Mais si elle est sélectionnée, ça peut changer beaucoup de choses dans le monde, mais ils ne savent pas eux-mêmes comment ça va changer. Croyez-vous un seul instant que ces jeunes qui étaient en Californie il y a 13 ans allaient imaginer les printemps arabes? Vous croyez un seul instant qu'ils allaient imaginer les spéculations complètement folles de la City qui a donné la crise financière de 2008 sur Twitter? Vous croyez un seul instant qu'ils avaient imaginé M. Trump et les fake news qui menacent nos démocraties? Voilà un bel exemple de contingence. Mais je n'ai toujours pas répondu à votre question tout à l'heure sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a matière à se réjouir et à s'inquiéter en même temps. D'abord, la crise de la Covid a montré que quand même, vous vous souvenez, on disait qu'il faut au moins un an, voire un an et demi pour un vaccin. En 6 mois, on n'a eu pas de vaccin différent. C'est extraordinaire. Donc on a des capacités de réaction absolument extraordinaires. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les maladies civilisationnelles. En 2007, donc, il y a eu le smartphone. Mais en 2007, c'est aussi une date importante de l'histoire de l'humanité. La majorité de la population humaine est urbanisée et ça va s'accentuer.
Les trois points de 2007, c'était quoi que je retiens?
Donc, l'iPhone, l'urbanisation et donc ce qu'on appelle l'intelligence dite moderne, donc sur les sciences et les data, les données, le numérique, l'économie numérique. Et les trois en même temps, donc ça converge vers ce qu'on appelle les smart cities. Et donc là, dans tout cela, quand même, il y a une inquiétude, c'est beaucoup plus de sédentarité, des problèmes d'obésité, des difficultés pour certains ou certaines de plus en plus en termes de libido ou de sexualité, des problèmes de pollution. Les pollutions sont devenues depuis 3 ans, l'OMS le dit tous les ans, la première source de mortalité et de morbidité dans le monde. Et ça, c'est le vrai problème parce que faut bien comprendre que nous ne sommes plus adaptés à l'environnement que nous avons créé. Donc comment changer nos sociétés et les environnements naturels et ou sociétaux qui permettront aux générations futures de s'épanouir.
C'est là où on passe un cap.
On passe un cap. Donc, vous voyez, la population humaine devient majoritairement urbanisée et arrive la crise de la Covid. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes en train de connaître ce qu'on voit très bien dans l'évolution. Quand une population n'est plus adaptée à son environnement, ce qu'on appelle une bipolarisation. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une belle population moyenne, vous avez deux pôles. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir là, et qu'en l'occurrence, aujourd'hui, contrairement à la vision verticale du monde, qui était le grand modèle occidental, avec le développement des classes moyennes, dont j'ai bénéficié toute ma génération, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus tout ça. C'est-à-dire que partout dans le monde, vous avez une bipolarisation au sein de chaque nation. Et ça, c'est le grand. Alors en Europe, on le ressent un peu moins, parce que, notamment en France, en Europe, parce qu'on a un grand modèle social qui nous coûte assez cher, mais qu'en tout cas, un avantage extraordinaire, c'est que ça temporise les effets délétères sur notre société, mais néanmoins, le processus est en cours.
C'est un problème social ou un problème anthropologique?
C'est avant tout un problème socio-économique, c'est-à-dire que nos sociétés sont plus adaptées à l'environnement qu'elles sont modifiées. Et pour quelle raison? Une règle simple dans l'évolution, c'est que... quand nous avons du succès, et quel succès? Attendez, depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3.
Vous avez un succès énorme.
On a un succès énorme. Mais, non, mais je veux dire, globalement, c'est un succès avec des inconvénients aujourd'hui qui nous rattrapent. Dans l'évolution, plus une espèce a du succès, plus elle a modifié l'environnement dans lequel elle a eu du succès. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle vit sur ses adaptations du passé, mais elle est plus capable de s'adapter à l'environnement qu'elle a elle-même contribué à changer. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en place.
Dites-moi, j'ai ma dernière question qui est la question Matrioshka. Pascal Pic, qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre? Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, j'ai des enfants. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre à mes enfants?
Pas que la tolérance, qui est très importante, Mais le fait de se dire que la différence, même si des fois elle est un peu difficile à vivre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus riche au sein d'une famille et d'une communauté. Laisser aux générations futures la capacité de laisser elles-mêmes aux générations qui suivront le choix de leur mode de vie. Mais ça veut dire qu'effectivement, que le monde qui viendra, ben, ce n'est pas forcément le mien, il ne sera pas celui de mes désirs. Après tout, le désir que j'ai pour mes enfants, ben, c'est peut-être ça qu'ils veulent. Et après tout, c'est tout l'enjeu, évidemment, l'éducation, on s'en est bien d'accord, mais de l'avenir de nos sociétés.
Merci beaucoup Pascal Pic pour cet avenir nommé désir que vous donnez à l'évolution. Merci à vous pour cette mise en perspective scientifique que vous nous offrez et qui nous aide un petit peu quand même à nous repositionner dans notre grande histoire. Votre regard de paléo-anthropologue nous étant utile aujourd'hui. Et puis merci à vous, chers êtres humains qui nous suivez fidèles à Matrioshka. Vous êtes tellement nombreux de plus en plus à regarder nos vidéos, à les partager, à les commenter. Continuez, c'est avec grand plaisir que nous vous lisons et que nous vous répondons. Si vous avez des envies de Matrioshka, eh bien n'hésitez pas à nous les soumettre. Pascal Pic en était une, par exemple. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Matrioshka. À bientôt. Matrioshka.